Alors les amis, le Rav Partouche m'a demandé de vous préparer, toraniquement parlant, à Hebron. Pareil, vous avez un tioul, quelque chose, ou Shabbat Reissa, quoi. Shabbat Reissa. Donc on va essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Ça marche ? Yala. Donc pour qu'on parle de Hebron, on va commencer par parler de Halakha. Ça va, hein ? Donc évidemment, vous êtes à l'Yeshiva depuis quoi ? Allez, 3 mois. Vous avez fini le chasse. Voilà, bon Hachem. Hein? Donc, évidemment, qu'on se rappelle du deuxième chapitre de Baba Metzia. Ah, bien sûr. La vérité, c'est que c'est en général un des chapitres, je sais, ne me demande pas pourquoi, mais c'est un des chapitres qu'on étudie en premier avec les enfants. Pour te dire, c'est le chapitre que mon fils il étudie en Kitavav. Kitavav, c'est quoi ? C'est sixième. C'est-à-dire, Elou Metziot. Maintenant, c'est quoi cette histoire? Vous connaissez certainement la halakha de Hashavat Aveda. On doit rendre quelque chose qui a été perdu. On doit essayer de le rendre. Ouais. C'est dans la paracha de Mishpatim qu'on va voir ça. Les psukim vont être très clairs. On va nous dire, si jamais tu trouves Aveda Tachicha, tu dois lui rendre. Ah, après, on va se poser la question. Qu'est-ce qui s'appelle une Aveda? D'accord? Vous inquiétez pas, on va pas faire un cours de halakha. Mais juste que vous compreniez l'idée. Dans l'idée, il y a, dans le judaïsme, une dimension qui s'appelle Kinyan, une dimension qui s'appelle Efker, et une dimension qui s'appelle Yehush. D'accord? C'est fastoche. Kinyan, ça veut dire Zécheli. Efker, ça veut dire c'est à tout le monde. Et Yehush, ça veut dire c'était à moi, mais j'ai abandonné complètement l'idée de pouvoir le récupérer. Atkan, on est bon? Yesh? Ça va. Maintenant qu'on a dit ça, alors on peut rentrer dans notre histoire. Imaginez-vous, dans quelques années, vous avez trouvé la bonne. The one. Ah, the one. Et là, tu as décidé de lui offrir, tu vas la demander en mariage, et tu vas lui offrir, maser the bag, mais the caillou, quoi. C'est le machin, elle a besoin de le porter, c'est un ballon de basket, le machin. C'est énorme, avec, marqué dessus, en laser, son nom, son numéro de Teoudat Zehout. Un cœur, je t'aime ma chérie, pour l'éternité, I love you, machin. Ok. Et en plus de ça, t'as envie de la demander en mariage, pas Stam, parce que vous allez construire votre maison en Eretz Israël, donc tu lui as fait, les écotels, tu lui as pris un hélicoptère, et vous faites le tour du pays, comme ça, bah. C'est faisable, hein. Après, c'est qu'une question d'Ira Tchamaïm, hein. Non, moi j'ai pas fait l'hélicoptère, non. Non, Ashkenaz ou pas Ashkenaz, faut pas la pousser. Bekitsour, et donc tu montes comme ça, t'es dans le ciel, elle est aux anges, elle a la folie, tu lui as donné la bague, elle a dit oui. Et à ce moment-là, il y a une petite turbulence, et le caillou, au large de Herzliya, tombe. Et tu le vois tomber, tu le vois. Et elle est là, et attention, il n'est pas stam tombé, tu l'as vu, plouf. Mais attention, il a ploufé au seul endroit où il fallait pas que ça plouffe, puisque, vous le savez, à côté d'Herzliya, il y a un triangle interdit où il y a des requins mutants à rayons laser qui sont à cet endroit-là. Ok ? Vadaï ! Et donc, il a plouffé à cet endroit-là et on a vu effectivement un requin arriver avec rayon laser. Top, la meuf, elle en peut plus. Terminé, Yehush. Yehush midat. Top, il se pose. Bah, qu'est-ce que tu fais ? T'as essayé, t'as envoyé ton mec. Elle a envoyé son mec. Elle a plus de mec. Yehush midat. Bekitso, c'est mort. Le lendemain, parce qu'en fait, ce que tu savais pas, c'est que le pilote de l'hélicoptère, il avait fait un peu exprès. Parce qu'en fait, il a mis au point un sous-marin anti-requin mutant à rayon laser.
Pour récupérer la bague.
Exactement. Et donc, il est parti. Il est parti dans l'eau, machin. Il a sorti un bras mécanique. Il a tué le requin à rayon laser. Il a pris la bague. Et le lendemain, on arrive au chouk. Et la dame, elle voit sa bague. C'est chez lui. Il y a mon nom dessus, Teoudat Zehout, machin, c'est chez lui. Ilchatiquement parlant, c'est là, chez là. Yehush. Ben oui, mais d'accord, mais d'après l'histoire complètement plausible que je t'ai racontée, a priori, elle a fait Yehush. Ça adhère ? Ok. Donc ça, c'est le concept de Yehush. Et c'est surtout le concept dans le judaïsme que le kinyan, la propriété, est très très différente de ce que nous, on vit dans la société occidentale. Qu'est-ce qui détermine ma propriété d'un bien, aujourd'hui dans l'Occident, En Israël aussi, quoi. En Israël, en France. À Sine, ça ne va rien changer au niveau légal. C'est t'as le ticket de caisse. Ouais, mais qui te dit que tu l'as acheté? Tu dis que c'est à toi, Bémet. Et là, en Occident, c'est très simple, t'as le ticket de caisse. T'as la cheshboni, t'as le reçu. La Kabbalah. C'est ça qui détermine ta position. Achav, j'ai acheté un truc, j'ai ma Kabbalah et je l'ai mis dans un grenier et je l'ai oublié. Je l'ai mis dans un grenier, je l'utilise pas, je l'ai oublié. J'ai le ticket de caisse, j'ai tout ce que tu veux, mais je l'utilise pas. Et ça fait des années que je l'utilise pas. D'après la loi en Israël, en France, machin, c'est à moi quand même. Aval, d'après la halakha, c'est le sheli. Bah parce que si je l'utilise pas, alors il y a après il y a dans les poskim, il y a plein de décisions. Combien de temps tu l'as pas utilisé, machin. Non, mais disons que ça fait 10 ans que tu l'as jamais utilisé.
Ouais.
Oui, sauf que tu fais pas yéhouch parce que tu sais que peut-être un jour tu vas l'utiliser. C'est à tout moment, tu sais que peut-être un jour tu vas ouvrir un bouquin. D'accord. Bon, mais dans la réalité, il y a des trucs que bah, concrètement, tu dis, bah.
Par exemple, à la place, il y a une grosse vague qui nous vient dans la tête, une lunette, elle se fait par rapport à quoi ? Dans l'eau, on les cherche et tout.
Ouais. Ben, tant que tu les cherches, t'as pas fait yéhouch. Quand t'arrêtes de chercher, t'as fait yéhouch. Après, le mec, il l'a retrouvé. Il peut être sympa et te le donner.
C'est-à-dire
il n'est pas obligé. Les jouets de tes enfants qui ont grandi. Bah pourquoi ? Moi, par exemple, j'ai fait des enfants uniquement pour pouvoir continuer à jouer avec mes jouets. Et
ouais. Okay, vous avez déjà 15 enfants, vous arrêtez.
Nahan, t'as raison. Si plus personne ne joue avec, en général, tu vas faire un vide-grenier, tu vas les vendre, tu vas les trucs sur eBay, c'est vintage, tu vas te faire plein de trucs. Tu rigoles ? Moi, j'ai fait une fois ça. Alors, peut-être les cartes Pokémon. Moi, je me souviens que je voulais faire un cadeau à ma femme et tout. J'étais un peu blèche, là, tu vois. J'étais pas au top. Au niveau Baruch Hashem, la Torah, ça amène pas énormément d'argent. Et donc, je me suis dit, comment je vais faire pour lui faire un cadeau? Eh ben, j'ai vendu 4 petites figurines qui étaient des éditions limitées que j'avais récupérées à Disney World en 1991. Édition limitée. Chaque figurine, bam, 250 euros. Cool. Des petits machins comme ça. Cool. Ça baba. Ça d'air. Mais j'avais pas fait yéhouch à aucun moment. C'est-à-dire, ils étaient sur une étagère et tout, machin. Mais Kitsour, si tu fais yéhouch, c'est plus à toi. Ok? Pardon? C'est FKR. FKR, celui qui le trouve. C'est ça? Yéhouch midat, ça rend l'objet FKR. D'accord?
Si je vais chez quelqu'un.
Ouais. A priori, si tu vas chez lui, tout ce qui est chez lui, c'est à lui. Tu vas pas commencer à lui taper des trucs. Ouais, c'est ça. Non, attends, moi quand j'étais au Maroc, je me rappelle, j'ai trouvé à la fin du Maroc, j'ai retrouvé une céréale qui était sous mon coussin depuis. Je l'ai mangé. J'ai pas fait yéhouch. Mais Kitso, Zé yéhouch. On a tous été, on est tous passés par là. On est tous passés par là. Plus la yeshiva est bonne, plus la nourriture est mauvaise. Ça, c'est un concept. Tu savais pas qu'elle était si bonne, la yeshiva. Kitsour, Rabotai, Ze Yehush, Veze Kinyan, Veze Efker. Jusque-là, on est bien, on est bien. Ça va. Maintenant, j'arrive à Hevron. Et vous allez arriver, Shabbat Rei Sara, Kol de Seider, La Folaï. Vous allez aller avec le Rav Naon, comme ça, 5h du mat, dans Oula Mitzrak, honnête. Ça va être la folie, ça va être la folie. Mais quand on y regarde dans les psukim, il y a quand même un truc qui est bizarre. On va acheter Meharat Amarpela. Adkan, vous connaissez l'histoire, Avraham il va acheter la Mehara. Mais franchement, est-ce que vous pensez vraiment qu'Avraham il était Ashkenaz sur les bords? C'est un petit peu bizarre, un petit peu rasra, que le premier acquis du peuple juif en terre d'Israël, c'est une tombe. C'est pas la chose la plus sympatoche du monde. La première chose qu'on achète en Israël, c'est une tombe, un tombeau. Quoi ? On pose des bases. Tu aurais pu acheter une maison. La vie, c'est mieux que la mort.
Si on enterre la mort dans un endroit, ça devient.
Je suis d'accord avec toi, mais on peut vivre aussi dans un endroit.
C'est vrai que ça rajoute de la vie si tu achètes
comme. Je sais pas ce que ça veut dire, ça rajoute de la vie. Je sais pas ce que ça veut dire, ça rallonge la vie. On va dire comme ça. C'est vadaï que le fait de savoir que l'éternité, tu la vois aussi en Eretz Israël, c'est chashuv. Maintenant, toi qui habites ici, tu n'as pas besoin, puisque tu as déjà, d'ores et déjà une place. C'est-à-dire les gens qui habitent en Israël, là où ils sont domiciliés, ils ont une place à eux.
Ouais, non. Ouais.
Baruch Hashem, Baruch Hashem, je sais pas si c'est ça qui rattache, qui rallonge la vie. J'en sais rien. Je me prends pas pour Akadosh Baruch Hu, je sais pas. Mais disons comme ça, c'est sûr que il y a des commentateurs qui sont très pour qu'on aille acheter une sépulture en Eretz Israël, même si on n'y habite pas. Il y en a d'autres qui sont très critiques. Il y a quoi, t'achètes une tombe, pourquoi tu viens pas? Ça c'est. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est bien d'être ici. C'est bien d'être ici, d'être enterré ici, à Kol Tov. Quoi qu'il en soit, la première acquisition du peuple juif en terre d'Israël, c'est une tombe. Ça aurait été plus sympa si tu achètes un champ de pommiers, je sais pas, une maison, un terrain. Mais Avraham Avinu va acheter une tombe. Et quand je vous dis il va acheter une tombe, quand on regarde les versets, dans deux secondes on va les lire, vous allez voir qu'on lui propose autre chose. Non, non, on lui propose de payer comme il faut, mais on lui propose pas d'acheter la tombe. Voilà. Regardez, je prends les versets. Donc, va yuchaye Sarah, mais Ashana, va esrim Shana, va sheva Shanim, shene chaye Sarah, va tamot Sarah, bekirat Arba, i Chevron. C'est-à-dire? Donc, Sarah est morte, akirat Arba, c'est Chevron. Beretz Kenan, va yavo Avram, lispod le Sarah, velifkota. Bon, de là, t'apprends d'ailleurs que Avram, il n'était pas là. Nahon. Va yavo. Avram, il est venu pour faire le espèce de Sarah. Il n'était pas là. Ben oui, il revient de Aram Moria.
Et qui c'est là, qui l'a enterré?
Non, c'est lui. Ils ont attendu. Mais il est revenu, il n'était pas à côté d'elle. Enfin, c'est la Kedat Yitzhak, et c'est pour ça qu'elle est mort.
Pendant la Kedat
Yitzhak. Ouais. Chaud. Vayakom Avraham me'al pene meto. Vayedaber el bene chet les morts. Il rassemble les gens qui sont les chétéens. Les chétéens, ce sont les Knaanim, les Goïm, qui habitent à Hebron. Il leur dit comme ça. Ger vetoshav anochi imachem. Ma c'est ger vetoshav. Eh ouais. Ger, ça veut dire étranger. Toshav, c'est sédentaire. Alors tu es ger ou tu es toshav? Eh bien en vérité, comment s'appellent les goyim? Ils s'appellent umot haolam. Em yoshvim baolam. Ils sont les patrons du olam azé. Efo am Israël. Olam Aedion. Sauf que ça, c'est ce qu'on a voulu nous vendre. C'est, on est plus dans les mondes spirituels que attachés à la terre. Seulement ça, c'était vrai. Bagalout. En vrai, on est et guerre et toshav. C'est-à-dire qu'on est guerre ba'olam azé, donc toshav avec Akadosh Baruch Hu, et on est aussi toshav ba'olam azé, et donc guerre avec Akadosh Baruch Hu. On a ces deux dimensions. On doit prendre possession de cette terre, parce que Dieu nous l'a demandé, et on doit également faire le lien avec les mondes supérieurs. Donc Avraham leur dit, Ger vetoshav anochi immachem. Vous aussi, vous êtes comme ça. Et donc, je voudrais vous demander un truc et je pense que vous allez me comprendre. Tenuli achuzat kever immachem veikbera meti milefanai. Donc lui, il dit clairement, je veux, donnez-moi, je vais acheter une tombe. Je veux enterrer mon mort. Vayanu benechet et Avraham les morts. Ouais? Ben c'est ça le chidouche du judaïsme. C'est qu'il n'y a pas que nous qui sommes censés faire le lien entre le ciel et la terre. Le monde entier, il doit faire ça. C'est quoi par le biais? On doit leur apprendre. Nous, c'est ce qu'il fait Avraham. Mais ils n'y arrivent pas. Et donc, ils lui disent « Vayanu benechet et Avraham le morlo shmaenu adoni nesi Elohim ata betochenu bemifrar kevarenu kevor et metecha. » Il dit « Non, non, toi t'es un nesi Elohim. Toi tu es... Tu es proche de Dieu. Toi, tu parles comme ça parce que tu es un mec super spirituel. Nous, on n'y est pas. Laisse tomber. Choisis la tombe que tu veux et enterre. » Tov, il voit qu'il ne peut pas parler avec eux. Alors, il leur dit « Vayakom Avraham veishtachu la ma'aret sivnechet veidaber itam lemor im yesh et nafshechem likbor et meti melefanai shemauni upigouli be'efron ben tzoha. » J'aimerais rencontrer Ephron ben Tzoha. Alors, c'est le patron de Maharat HaMarpela. C'est à lui que ça appartenait. Le propriétaire. Mazé Ephron. Ephron, c'est Afar Katan. Mazé Afar. Poussière. Qui c'est qui a été fait depuis la poussière? Ah, Sochar, ça veut dire brillant. Brillant. Ephron ben Sochar, il est le dernier vestige chez les Goïm de Adam Arishon. Genre, le mec, il sait très bien qui il est, et Abraham sait très bien qui il est aussi. Chez les Goïm, j'ai dit. Chez les Goïm. Oui. De toute façon, on est tous des descendants d'Adam. Donc, si tu veux, il était celui qui, chez les Goïm, était le plus proche de l'identité de Adam.
Et c'est qui a fait descendre les Juifs?
C'est-à-dire?
D'Adam, il y a ceux qui descendent. Il y a une
descendante de Gog. Non, après, il va y avoir le déluge, il va y avoir Noir qui va avoir trois enfants, Shem, Ham, Veyefet. Nous, on vient de Shem. Ok? Bekitsour. Et donc, ce fameux Ephron, regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit, Vaïdaber itam le mort, imesh nevzechen, ben ben sora. Vaïten li et me'arat amachpela, asher lo, asher bikse sadeu. J'aimerais qu'il me vende la grotte de Marpella qui est au bout de son champ. Donc qu'est-ce qu'il veut lui? La grotte. Qu'est-ce qu'on va faire dans une grotte? Enterrer son mort. Pachout. Et il dit, bekesef male, dites-nous li, bat betochachem la chuzat kaver. Ve'efron yoshev betor benechet. Ephron, il est là. Et il dit, Tov, 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 Vayan Ephron achiti et Avraham, Beozne benechet le mort, le chol baev shahariro le mort. Il lui répond, il lui dit, Lo Adoni, Shemaeni, Hasaden et Atilach, Vaameara, Sherbo, Lechan et Atia. Non, mais je vais te vendre tout le champ, et la grotte qui est dedans aussi. Mais je te vends le champ. Vous allez me dire, bon, ça va, le champ, il y a la grotte dedans, il veut que la grotte. Non, Kiratarba, c'est le nom de Hebron à l'époque. Ok? Là, il lui dit, je vais te vendre le champ. Aha! Et Abraham, il dit, non, je veux pas le champ. Je veux que la Mehara. C'est quoi l'histoire? Si Ephron lui vend le champ, ça veut dire que le premier achat du peuple juif en terre d'Israël, ce qui va donc déterminer notre lien avec la terre d'Israël, c'est un champ. Or, un champ rentre dans la dimension de ce qu'on a dit, Kinyan, Efker, Yehush. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais d'un champ? Je le cultive. Et si je le cultive pas, c'est plus à moi. Et qu'est-ce qui se passerait si jamais je partais en galoute? Alors que si j'achète une tombe, c'est-à-dire que si mon premier lien avec la terre d'Israël, c'est une sépulture, qu'est-ce qu'on demande aux résidents de la sépulture de faire? Non? Le résident de la sépulture. Bah c'est tout, il est là et puis c'est tout. C'est-à-dire que la tombe, t'as rien besoin de faire. Ce qui veut dire que le fait qu'on achète une tombe et non pas un champ va montrer que le lien qui nous unit avec la terre d'Israël, que Abraham va cristalliser ici, ne dépend pas de ce qu'on en fait. Ouais.
Sauf que il pouvait clairement ne pas mourir aussi ici, parce qu'il disait que si la tombe, s'il n'y a personne à l'intérieur, il peut toujours la prendre aussi.
Non mais il n'y a pas de problème, peut-être que c'est des voleurs, disons. Mais Abraham, le fait qu'il va s'accrocher à une tombe, va montrer que le lien entre sa famille et cette terre ne dépend pas de ce qu'on fait. Il est là. Point. Le lien est là. Et donc, en fait, Hebron va être le symbole du lien entre Am Israël et Eretz Israël, l'homme méchané ma. On s'en fiche de savoir qui, quoi, tu fais quelque chose, t'es là, t'es pas là, ça change rien. Le lien est éternel, comme la tombe est éternelle. Oui. Ouais. Adam Arishon, il n'est pas que à nous. Les goyim aussi. Nahon, tout le monde peut se réclamer propriétaire, sauf que Ephron, il a vendu la Mehara à Avraham. Ah, d'où lui il l'a possédé, on a dit. Il est celui qui a hérité. Il était celui qui était le dernier vestige de l'identité de Adam. Comment ça s'est passé dans les faits? J'en sais rien. Est-ce qu'il a fait la guerre? Est-ce qu'il a acheté? J'en sais rien du tout. On ne me dit pas, je ne peux pas savoir.
Et on a encore le papier, genre,
on n'a pas le papier. Non, on n'a pas le papier, mais on s'en fiche. On s'en fiche. C'est pas le papier qui détermine. Oui, mais encore une fois. Nahon, mais encore une fois, ce qui détermine la Baalout, ce n'est pas le papier. Si c'est un champ, c'est ce que tu en fais. Si c'est une tombe, c'est tout simplement celui qui est enterré.
Comment il s'appelle celui qui a vendu avant?
Ephron ben Tsoha. Donc là, si tu veux, qu'est-ce qui montre que c'est à nous? Bah, qui est enterré là-bas. C'est-à-dire, Zakol. Et donc, en fait, pendant des milliers d'années, Hevron va servir de lieu duquel part l'identité d'Israël. Oui? Ben oui, donc c'est pour nous. Ah, les musulmans, ils réclament, mais ils réclament pas d'après la halakha. Ils réclament parce qu'ils réclament tout. Les musulmans, ils ont un truc très simple. Tout le monde est musulman pour eux. Non, mais mec, c'est-à-dire que pour les musulmans, tous les prophètes qui les ont précédés sont des musulmans. Seulement, tu le savais pas. D'accord, bah oui que non. Mais pour eux, Jésus, c'est un musulman. Moshe, c'est un musulman. Yaakov, c'est un musulman.
C'est... Nous, on dit bien que Abraham et Adam, ils n'étaient pas juifs.
Abraham? Bah, Abraham, il était le porteur de l'identité de Ever. Il était hébraïque.
Oui. Il n'était pas juif.
Bah, il n'y avait pas encore de juifs, évidemment, à ce moment-là.
Il n'était pas 90 ans. On va la poser là.
Pourquoi?
Il a fait l'alliance avec Hachem.
Il a fait l'alliance avec Hachem, mais il n'était pas juif. La notion de juif, elle apparaîtra beaucoup plus tard. Même pas. Ah non, non, pas du tout. Il ne faut pas se tromper. L'appellation détermine aussi mon identité. Lorsque je suis... Attends, regarde. Lorsque je suis un hébreu, ça veut dire que je me rattache à Ever. D'accord ? Lorsque je suis un juif, c'est que je me rattache à une dimension extrêmement petite. Parce que Mazé, Yehoudi, ça vient d'où ? De Yehouda. Et ils sont où tous les autres tribus ? Elle est où mon identité globale ? Alors, il y a un peu de Lévim, mais Bégadol, Yehoudi, c'est notre appellation en exil.
Ouais, ça veut dire c'est même pas... En fait, juif, c'est même pas quand on a reçu le don de la Torah.
Non. La première fois, on va parler de juif.
C'est quoi l'appellation exacte
pour... Béné Israël. Okay. Béné Israël. Quand est-ce qu'on va s'appeler juif pour la première fois? Megillat Esther. Ish Yehoudi, Aya Beshushan Abira.
C'est la première fois qu'on nous appelle juif.
C'est la première fois qu'on nous appelle juif. Oui. Attends, il y a derrière. Mais vadaï, parce que Avraham nous dit la Gemara que kiliotav naasulo talmidei chachamim velimdo oto Torah. C'est-à-dire ses intestins étaient des rabbanim et lui enseignaient ça il faut que tu manges, ça il faut pas que tu manges, il faut que tu attends 3 heures, 6 heures. C'est le méchané. Avraham Avinu, il a une façon naturelle de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, mais ça le fait pas devenir juif. Ça le fait devenir rattaché à Dieu. Yitzhak, il va avoir une autre façon de s'attacher à Dieu. Et Yaakov, une autre façon. Par exemple, comment est-ce que Yaakov, il met les tefilines? Mais si. Yaakov, il met les tefilines. Eh oui, il prend du bois et il coupe des petits morceaux blancs dans le bâton de bois. Vous vous rappelez quand il doit faire abreuver son troupeau pour avoir plein de richesses qu'il va prendre à la vanne? Alors, il fait tout un stratagème où il va couper des morceaux de bois, un peu de blanc, un peu de noir, un peu de blanc, un peu de blanc. Rashi nous dit, « Zanachat tefilin chez Yaakov ». Bon, c'est un style. Donc si demain, vous voulez pas venir à la tuila et vous êtes en train de couper du bois, Gloire partout, je viens vous voir, Didi. Tchilin. Ouais.
Vous avez dit que donc des juifs, du coup, la partie de la terre et
pas la terre.
Est-ce que c'est pour ça que plus tard, le roi David, il va
faire... Bevadaï. Bevadaï. C'est-à-dire que Hevron va donc devenir... Oindre, ça veut dire qu'on lui met de l'huile sur la tête et on dit c'est toi le roi. Et où est-ce qu'on va le oindre? Eh bien, à Hebron. D'abord à Bethléem. À Bethléem, quand il est chez lui. Mais où est-ce qu'il va devenir le roi? D'abord, pendant les 7 premières années, à Hebron. Et c'est de Hebron, dans le livre de Shmuel, eh bien, que toutes les tribus d'Israël vont venir chez David pour lui dire « Timloch Alen ». C'est-à-dire l'unité du peuple juif, soit le roi pour nous tous. Vous vous rappelez que David, quand il devient roi, au début, ça ne marche pas. Il y a Shaoul. Il y a la guerre entre David et Shaoul. Quand Shaoul va mourir, que son fils va mourir, Jonathan, alors les tribus, elles en ont marre des dissensions à l'intérieur du peuple juif. Et donc, ils vont dire, on va aller chez David, Hevrona. Et donc, c'est de Hevron que David va monter à Jérusalem. C'est-à-dire ? Donc, Hevron, mamash, c'est le lieu, de, on va dire, du point de départ du Ham Israël. La pierre angulaire. Ok ? Alors, pourtant, aujourd'hui, ça ne nous appartient pas, ouais.
Mais pourquoi, alors, dans ce cas-là, il n'est pas Hébron, directement, on n'était pas Hébron, il 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 n
Ah, parce que il y a une dimension qui est au-delà de Hébron. C'est la dimension de Jérusalem. Hébron, c'est l'endroit le plus spirituel du monde. Shrem, c'est l'endroit le plus matériel du monde. Yerushalayim, c'est l'endroit le plus kodesh. À Jérusalem ? Parce que, encore une fois, l'origine, ça doit être Hébron. Hébron, c'est Beyesod à Afar, c'est relié à la terre. Tu veux d'abord et avant tout cristalliser le lien avec la terre. Tu ne peux pas arriver comme ça à Jérusalem. D'ailleurs, on n'arrivera pas à Jérusalem avant David. C'est-à-dire que la dimension d'Yerushalayim, regardez, au niveau de la halakha. Au niveau de la halakha, quand tu habites à Paris, où est-ce que tu te tournes pour faire la tefila ? Alors, ouais, quand tu es à Paris, tu te tournes vers l'Est, mais c'est pas une bonne, c'est pas ce que je voulais comme réponse. Vers Israël et non pas vers Jérusalem. Voilà. Quoi ? Bon, tu, en gros, si tu tournes vers Israël, tu tournes aussi vers Jérusalem. Mais la Gemara nous dit, tu vas te tourner vers Israël, parce que tu peux pas, de Paris, arriver à la dimension de Jérusalem. D'abord, Eretz Israël. Hein ? Quand on est en Israël, Jérusalem. Quand tu es à Jérusalem, Beth Amikdash.
C'est quoi la différence entre Kodesh et spirituel ?
Ah, très bonne question. On a été malheureusement abreuvé pendant 2000 ans de christianisme. Et comme on a été abreuvé de christianisme, même avec une kippa et des péotes et des barbes et des chapeaux, eh bien, il y a des notions, des concepts qui sont rentrés chez nous. Et on a traduit les mots chol et kodesh par matériel et spirituel. C'est une terrible erreur. Ok, terrible erreur. Pourquoi ? Chol, on va faire comme ça. Le spirituel peut être et chol et kodesh. Exemple. Spirituel, ça vient du mot spirit. Ça se passe dans la tête. Le tfilin, c'est pas du tout spirituel. Le tfilin, c'est très matériel.
Non, c'est matériel, mais on fait quelque chose de...
C'est un très bon exemple. Tu fais pas quelque chose de spirituel. Tu prends quelque chose de complètement matériel, un morceau d'animal que tu as travaillé et que tu as mis sur ton bras et que tu l'as enroulé avec tes lanières. C'est complètement matériel. Parce que c'est Kodesh. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Alors, deux secondes. Chol ve Kodesh, ce n'est pas spirituel ou matériel. Viens, laisse-moi t'expliquer. Burger, frites, coca. J'ai envie de me faire péter le ventre. Ok ? Hein ? Petit burger's bar, tu commandes le truc shritout avec l'œuf au-dessus, que quand tu croques, ça t'égouline de partout. Ah, on la connaît, on la connaît. Ouais. Yassar Khedorokhed, ouais. Si tu fais ça, un burger frites coca, parce que tu as envie de te faire péter le ventre, c'est matériel ? Oui, ça c'est matériel. Clairement matériel. C'est chol ou c'est kodesh ? C'est chol. Maintenant, je me refais le même burger frites coca parce que je viens de faire un sioum maseret. Je fais une seoudat mitzvah. C'est toujours autant matériel. C'est le même burger, mais c'est kodesh. Donc, ça veut dire que, forcément, le kodesh peut être aussi la sanctification du spirituel. Exemple, je fais un exercice de maths parce que j'ai le bac. Ça me saoule. Les maths, c'est spirituel. Mais si c'est pour passer mon bac, c'est chol. Par contre, je fais des études de mathématiques pour dévoiler la particule de Dieu. Des mathématiciens qui sont très religieux, et grâce aux mathématiques, ils arrivent à s'attacher à des choses incroyables. Il y avait les frères Bogdanov. Tu connais les frères Bogdanov, Zatzal ? Ça veut dire Zé, spirituel, Zé Kodesh. Ça peut être Chol, ça peut être Kodesh. Donc, Chol ve Kodesh, c'est pas matériel spirituel. Il y a du matériel qui peut être Chol, il y a du matériel qui peut être Kodesh. Il y a du spirituel qui peut être Chol, il y a du spirituel qui peut être Kodesh. Je donne un dernier exemple. Là, j'ai un livre de Bereshit devant moi. Et on étudie le livre de Bereshit. Ce qu'on est en train de faire, c'est Kodesh ou c'est Chol ? Le Kodesh, on étudie la Torah. Maintenant, imagine, à une heure d'ici, dans l'université de Bar-Ilan, ou tu sais quoi, à 20 minutes d'ici, dans l'université de Harat Sofim, il y a un mec qui fait un doctorat en études comparatives du langage dans le livre de la Genèse. Et il étudie les mêmes versets que nous, mais uniquement pour montrer que ça n'a pas été donné par Dieu et qu'en fait c'est de l'académie et tout ça. Et on a étudié les mêmes versets. Seulement lui, c'est Chol. Lui, c'est Chol. Et nous, c'est Kodesh. Nachon. Nachon. Et donc maintenant, vous pouvez comprendre ce que veut dire le mot Chol. Le mot Chol veut dire en hébreu lachoul. Le verbe, c'est lachoul. Ça veut dire ? Non. pas Bachus. Lachul, ça veut dire résider. Par exemple, on dit Rosh Chodesh Chal Beyom Revi. Rosh Chodesh tombe mercredi. Lachul, ça veut dire résider. En d'autres termes, le Chol, c'est là où le Kodesh peut résider. À toi de le dévoiler. La Shrina, quand elle se dévoile ici, alors ça élève le Chol au Kodesh. D'accord. Ben c'est compliqué. C'est-à-dire que Hakadosh Baruch Hu, il nous a mis dans un monde dans lequel on est obligé, bimchila, d'aller aux toilettes. C'est une réalité. Ah, ben si on est obligé d'aller aux toilettes, c'est que je suis complètement ancré dans la matérialité. Donc c'est vrai que je peux, des fois, me mettre uniquement sur du spirituel, mais pas sur le long terme. Bah, je peux me prendre une journée de 25 heures où je mange pas, je bois pas, je me comporte comme un malard, je prie toute la journée. Je peux faire Yom Kippour. Mais je peux pas rester toute la journée, toute la semaine en Yom Kippour. Je vais mourir. C'est ça? Donc oui, Akadosh Baruch Hu nous a mis ici pour que et le Chol, et le matériel et le spirituel puissent dévoiler le Kodesh. Ok? C'est clair? Top. Donc, Chevron, c'est l'endroit qui fait le lien. Yerushalayim, c'est HaKodesh. Chevron, c'est HaRuach. C'est la spiritualité. Shrem, on a dit, c'est la matérialité. D'ailleurs, quand tu regardes les Arabes de Shrem, ils sont pas religieux, ils sont chilonimes. Ils nous détestent, hein, mais ils sont chilonimes. Alors que les Arabes de Chevron, ils sont super religieux. Oui. C'est ça ? Il y a une vraie différence de population. Parce que l'endroit influe sur nous. Chevron, c'est le lien pour nous avec l'éternité d'Israël. Alors tu vas me dire, ouais, mais alors, c'est à nous ou c'est pas à nous? Aujourd'hui, c'est à nous ou c'est pas à nous? Alors aujourd'hui, ça dépend où. Kiryat Arba, c'est à nous. La ville de Kiryat Arba, c'est à nous. C'est là où tu vas dormir, a priori, un Shabbat Reissara. Chevron, il y a plusieurs endroits. La nouvelle ville de Chevron, malheureusement, à cause des accords d'Oslo qu'il y a eu il y a quelques années, eh ben on peut plus y aller. Tu peux pas aller, toi, en tant que juif, en tant qu'israélien, tu peux pas aller à Chevron, dans la ville nouvelle de Chevron. Et puis, hein? Et Maharat Amarpella, c'est une histoire particulière. Alors non, Maharat Amarpella, il y a ce qu'on appelle le statu quo. Depuis les accords d'Oslo, il y a un statu quo à Maharat Amarpella qu'il y a moite-moite. C'est-à-dire que, de manière générale, il y a une partie de la Mehara qui est pour les Arabes, c'est la partie de Yitzhak et Rivka, c'est une mosquée. Et il y a une partie qui est pour les Juifs, c'est Avraham et Sarah et Yaakov et Léa.
Et
Adam Arishon, c'est un palmier. Tu verras quand tu arriveras là-bas, tu verras dans le coin, il y a un palmier, et c'est ça le siman qu'en dessous, il y a Adam Arishon.
C'est une sorte
d'hôtel. D'hôtel? C'est pas un hôtel, il y a des escaliers qui montent. Il y a des escaliers. Il y a un espèce de petit machin avec un petit palmier au-dessus.
Et comment ça s'appelle Adam et là, c'est dans ça, non?
Non, le Adam, c'est dehors. Tu vois le Oulam Yitzhak? Tu vois l'entrée de Oulam Yitzhak? Bah en face, dehors. Tu vas voir, il y a des escaliers qui montent, c'est dehors. Il y a des escaliers qui montent et il y a un...
D'ailleurs, là, il y a Eden, je crois.
Il y a la tête de Esav aussi là-bas.
Il
y a quoi? Bah avec Adam. Ouais. Hein? Alors, 10 jours par an, toute la Mehara, elle est pour les Juifs. Et 10 jours par an, elle est toute pour les Arabes. C'est pour l'instant le statu quo qui est mis en place là-bas. Mais ça n'a pas été toujours comme ça. Oui?
Il n'y a pas eu un truc avec le pigou, avec le
Juif
qui a tué les.
Non, c'est quoi? Il n'y a pas eu un truc. Il y a eu un gros truc. Hein? Il y a un kever à lui dans Chevron et tout ça machin. Bon, après c'est une grande histoire cette histoire. Hein? Il était pas rabbin. Il était médecin. Il était médecin. C'est ça? Maintenant Macheloye, vous savez que Chevron, il y a un bonhomme. On a dit Chevron, c'est le lien avec la terre, le lien essentiel intrinsèque avec la terre d'Israël. Alors on a dit, évidemment, à Maharat Amarpella sont enterrés Adam et Chava, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Mais il y a un autre bonhomme qui est enterré juste devant la Mehara. Alors, il y a la tête des sages, on a dit, Nachon, mais juste devant la Mehara, avant que tu rentres, il y a un bonhomme. Non, enfin, c'est juste à côté de là où tu peux allumer des bougies. Et ouais, et pas n'importe quel rave. Ramban, exactement. Rabbi Moshe ben Nachman, le Ramban. Nachmanide. Pas Maïmonide, Nachmanide. Le Ramban. C'est juste avant de monter à la septième marche. Maintenant, le Ramban, il est enterré là-bas. C'est lui qui a demandé d'être enterré là-bas. Achav Lama. Parce que c'est quoi le grand combat du Ramban? C'est d'expliquer qu'il y a une mitzvah de revenir à la terre. Qui, dans les poskim, a dit qu'il y avait une mitzvah d'habiter en Eretz Israël? C'est le Ramban. C'est-à-dire? Et donc, c'est pas étonnant de voir qu'il a demandé à être enterré à l'endroit du lien avec la terre. C'est quoi? De quoi? Bah, c'est pas dans la Mehara. C'est à côté. Bah, semble-t-il que le Ramban n'était pas d'accord avec toi. Cholek. Hevron, vous savez qu'elle a été libérée en 1967. En 1948, guerre d'indépendance, toute la Judée-Samarie, elle tombe entre les mains des Jordaniens. Donc on ne peut pas y aller. Et non seulement on ne peut pas y aller, mais depuis, alors on ne peut pas y aller du tout pendant 19 ans, mais même avant, on ne pouvait pas rentrer dans la Maharat Amarpella. On ne pouvait rentrer que jusqu'à la septième marche. Il y avait un grand escalier qui rentrait dans la Mehara, et la septième marche, c'est là où les Juifs ils avaient le droit d'aller. Parce que les Ottomans, les Arabes, ils voulaient les humilier. Ils disaient, vous ne rentrez pas plus que la septième marche. On n'avait pas le droit. Pendant des centaines d'années, on ne pouvait pas y aller. Les seuls... Hein, bah, pendant qu'il y avait l'Empire Ottoman, qu'est-ce que tu veux faire? Les seuls qui ont bravé l'interdiction et qui sont montés, c'était des femmes. Des femmes. Ben oui, pourquoi? Elles s'habillaient comme des Arabes. Et donc, elles arrivaient des fois à se faufiler. Ben, elles savaient que si elles se faisaient prendre, c'était la mort. Mais il y a des femmes de Tzadikot qui ont continué à aller à Matan Pella. Oui. Exactement. Aujourd'hui, la septième marche, elle est explosée. Makara. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la septième marche, elle est explosée? En 1967, quand on a conquis Hebron, eh bien, Moshe Dayan, le chef d'état-major, non, c'était pas le chef d'état-major, en 1967, c'était le ministre de la Défense, il est venu et il a dit « Plus personne ne nous dira qu'on n'a pas le droit de monter. » Et il a mis de la dynamite sur la septième marche et il a fait péter la septième marche. C'est pour ça que vous pouvez voir aujourd'hui un gros trou avec du calciné, machin, pour que la pierre, elle brûle, faut aller chercher, quoi. Ouais.
Il n'y a pas un
endroit où on n'a
pas le droit d'aller.
Bah, Bichlal.
Non, mais
Il y a des histoires de fous, il y a un endroit où il y a un tunnel, est-ce qu'on peut... Il n'y a pas de issour d'y aller ou pas d'y aller. La question, c'est est-ce qu'on sait où est-ce qu'on va? C'est ça la vraie question. Ah, là, on raconte tout plein d'histoires. Il y a rencontré Eliezer, l'autre il a rencontré Eliyahu Hanavi. Il y a même une histoire à l'époque des Anglais, où il y a des Juifs qui ont essayé de trouver l'entrée de Maharat Amarpella. Et en fait, ils ont trouvé une galerie et ils sont rentrés dans la galerie et ils ont été tout loin et ils sont arrivés à une grosse dalle et ils étaient persuadés que de l'autre côté, c'est Mamash Zéou, c'est Abraham, il est là, quoi. Et ils entendent des voix. Et ils disent, mais ça y est, c'est les Avot, ils nous parlent, ils sont là, ils se sont réveillés. Ils sont comme des oufs. D'un autre côté, dehors, il y a des gardes britanniques qui entendent de dehors, des voix. Ils disent, c'est pas possible, ça c'est les Havot, ils sont là, ils veulent nous détruire, machin. Hein. En fait, la dalle, ça menait pas du tout à la Mehara, ça menait à dehors. Et en fait, les uns entendaient les voix des autres. Les Juifs, ils entendaient les soldats britanniques qui parlaient, et les Britanniques, ils entendaient les Juifs qui creusaient. Donc, il y a plein d'histoires là-dessus. Mais il y en a une qui est tout simplement incroyable. Hevron a été libéré par un homme. Un seul. Eh oui, le Rav Goren. Tout seul. Ma chénikra, seul tout. C'est vrai qu'il y avait son chauffeur. Maintenant, le Rav Shlomo Goren, qui va devenir celui qui croit avec le Sefer, celui qui avait le chauffard, machin. Alors le Rav Shlomo Goren, je t'invite à aller regarder sur ma chaîne YouTube mon cours sur le Rav Shlomo Goren. hein, petit promo normal, tu marques, Rachlomo Goren. Bekitsour, le Rav Goren, il a voulu énormément être avec les soldats pour la libération de Hebron. Donc toute l'armée, enfin ceux qui étaient dans la région, ils étaient stationnés au Gush Etzion. Et le lendemain matin, prévu qu'à 4h du mat, on parte du Gush Etzion à Hebron. Et le Rav, il était tellement chaud, toute la nuit, il a chauffé les soldats. Il a dit, demain matin, on fait Shacharit Amara, d'avoir Pella, la folie. Ça va ? Ah, c'est un kiffeur. Et petit kidouche et tout. Et il est tellement en truc que finalement, il ne voit pas l'heure tourner. Et quand il se réveille, il n'y a plus personne. Et il est tellement dégoûté. Il dit à son chauffeur, ah, on a raté le train et tout, on a raté le gros des troupes. Allez, viens, on y va, on les rattrapera. Et il commence à rouler. Et puis, il ne voit personne. Son chauffeur, il dit, c'est bizarre quand même, on va quand même plus vite, nous, tout seuls avec une Jeep, que toute l'armée. On aurait dû les rattraper, c'est pas... Et ils arrivent à Hebron, et en fait, plus ils arrivent à Hebron, et plus ils se rendent compte qu'en fait, ils sont pas en retard. Ils sont en avance. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement excités qu'ils se sont levés trop tôt. Ils dormaient. Ben non, ils étaient tous dans les tentes. C'était genre, personne ne parle, le camp, il avait l'air, tu sais, endormi, désert. Et il est parti. Et donc, il arrive à Hebron, il est tout seul. Il sort de sa Jeep devant la Mehara, il met son Uzi, il tire 3 rafales en l'air, il toque et il dit « Adipo, je suis là, donnez-moi les clés de Hebron. » Et tous les Arabes, ils se disent « Attends, c'est sûr qu'il ne vient pas tout seul. C'est sûr que ce n'est pas possible qu'il soit là tout seul. Il doit y avoir toute l'armée qui est là et lui, ils l'ont envoyé, ça montre qu'on est fini. » Et donc, ben, tous les Arabes, ils lèvent les mains, ils déposent les armes et ils donnent les clés au Rav Goren. Et c'est seulement une demi-heure plus tard que Tsahal arrive. Et le responsable de l'unité des Tzanchanim, des parachutistes, Motagour, il est vénère, grave. Ce qu'il dit, tu m'as pas attendu. Et donc le Rav Goren, il lui dit, il n'y a pas de problème, petite erreur de ma part, Koltov. Par contre, on s'attend pour Jéru. Ok, on arrive à Jéru ensemble. Effectivement, ils vont arriver à Jéru tous les deux. Hein ? Et ils vont libérer Jérusalem le lendemain. Donc, vous voyez que Hebron, c'est vraiment l'endroit qui nous rattache à notre identité. Alors, qui va être à Hebron ? Nous, on va y aller, enfin, vous allez y aller, Shabbat Raï Sarah, Koltov. Non, parce que je l'ai fait quand j'avais votre âge et maintenant j'ai ma communauté. Alors, plus compliqué, c'est à Katamon. Non, ça ne me dit rien. Nous, on s'appelle Shorachim et on est dehors.
C'est qui
chante ?
Dehors.
Chante, on chante.
Parce qu'il y en a une qui chante vraiment que vous chantez, genre
vous. Non, c'est pas nous alors. Non, nous, le vendredi soir, c'est pas compliqué, c'est une heure tout pesé, compris le Dvar Torah du rabbin. C'est-à-dire, Mincha jusqu'à la fin de une heure. Non, Bekitsour, donc je vais pas y aller, mais Bekitsour. Qui a été à Hebron pendant toutes ces générations ? Ah, très peu de gens. On a parlé d'Abraham, on a parlé d'Israël, on a parlé d'Yaakov, de Seder Gamour. Au final, on a parlé de David Ameler. Et au final, Hebron, comment je sais que c'est vraiment Hebron ? Hein ? En fait, pour savoir qu'un endroit, c'est vraiment l'endroit, il y a 3 façons de le savoir. Soit... Pourquoi conflit ?
Parce que tout ce que nous on a, ils le veulent.
Ah ouais, d'accord, mais ça c'est justement, comme tu dis, c'est tout. Il y a 3 façons de savoir que véritablement tu es à un endroit et si tu sais que c'était l'endroit d'il y a très longtemps. Soit tu as retrouvé des objets où il y a marqué le nom de l'endroit, l'archéologie. Tu as trouvé une tasse où il y a marqué Bienvenue à Hebron. Ou alors le nom de l'endroit s'est transmis. Malgré les différentes civilisations, le nom est resté. Soit il y a une tradition, c'est-à-dire il y a une continuité d'habitation. Ok ? Eh bien, à Hebron, il y a les 3. Non seulement ça s'est toujours appelé Hebron, même à l'époque des Arabes et même à l'époque des chrétiens. En plus de ça, il y a toujours eu une succession d'habitations et on a retrouvé à Hebron des vestiges archéologiques avec le nom Hebron, avec le roi de Hebron qui a envoyé des amphores de vin au roi d'Égypte, à Pharaon d'Égypte. C'est-à-dire, je te parle avant que les Bnei Israël arrivent en Canaan. Ça, donc on a retrouvé pas mal de choses. Et Hebron, c'est vraiment l'endroit de notre identité. Donc, est-ce que c'est important d'aller à Hebron ?
Ben.
Alors, je sais pas si c'est comme le Hajj. On va dire que effectivement, il y a quelque chose. C'est pas seulement un pèlerinage, c'est le point de départ. Hebron, c'est le point de départ du Ham Israël. C'est de là que tout a commencé en fait. Notre histoire, elle a pas commencé à Jérusalem, elle a commencé à Hebron.
C'est là-bas qu'il a dit que Hachem a créé la
terre. Non, ça c'est Jérusalem. Mais notre histoire, elle commence là-bas. C'est-à-dire avec l'implantation de Abraham et l'achat du caveau, eh bien, c'est le point de départ de notre identité. C'est-à-dire, donc c'était, c'est pour ça que c'est super important. Et c'est pour ça, Abotai, que si on parle de Hebron, quand vous allez y aller, essayez de vous imprégner de Gdushat HaMakom. Qu'est-ce que ça veut dire Gdushat HaMakom ? La sainteté de l'endroit. Il faut que vous compreniez une chose. Je vais dire quelque chose qui ne fait pas plaisir, mais qui pourtant est de mal à la saute. Comme on a dit tout à l'heure, Bezrat Hashem, avec l'aide de Bezrat Hashem, comme disent les Français, un jour vous rencontrerez des meufs.
Des meufs ?
Oui. Tu vas te marier un jour, non ?
Là,
tu vas te marier ?
Un jour ?
Bah, un jour. Je ne sais pas si tu es déjà en mode Shidour aujourd'hui. Mais un jour, tu vas y aller. Maintenant, dis-moi. Amen. Maintenant, dis-moi. Il faut trois choses pour que tu puisses la rencontrer, cette fille. Enfin, il faut trois choses pour que le rendez-vous ait lieu. Il faut un, la meuf. Ah ouais. Bah, c'est important. Deux, il faut l'endroit. Et trois, l'heure, le moment. Non, bah, c'est l'endroit et le lieu. L'endroit et le moment. Si moi je dis à ma femme, viens, on se retrouve demain à 2h, bah, on se retrouvera pas. Maintenant, si je lui dis, viens, on se retrouve au canyon de Malcha, mais je dis pas quand, ben, on se retrouvera pas non plus. Et puis, si j'ai envie d'aller à 2h au canyon de Malcha, mais j'oublie d'appeler ma femme, je vais pas non plus la voir. Donc, on a besoin des trois choses pour que l'y ait. Non, ça paraît évident, mais c'est pas shoot. Donc, on a besoin des trois choses pour que l'y ait rencontre. Non? Pachout, c'est pchat, c'est simple. Évident. C'est cal. Bekitsour, on a besoin des trois choses pour qu'il y ait rencontre. Et bien, il en va de même entre nous et Akadosh Baruch Hu. Pour que nous, on puisse avoir une rencontre avec Akadosh Baruch Hu, il faut les deux identités. Il faut Am Israël, il faut Akadosh Baruch Hu, ça c'est bon. Mais il faut un moment de rencontre. C'est quoi ce moment de rencontre? Alors. Alors, la Hamida, c'est pas vraiment un temps de rencontre.
Non, mais on lui parle déjà tous les jours.
On lui parle, mais on le rencontre pas. Nahon, mais on le rencontre pas. Bah, t'es pas encore prophète. Tu lui parles. Tu baiseras ta chaîne. Mais là, concrètement, tu es déjà prophète. Non, d'accord, il n'y a pas de problème. Je dis simplement qu'il y a des moments que Dieu nous a donnés qui sont des temps où il vient nous rencontrer. On appelle ça dans la Torah Moadé Hachem. Et les Moadé Hachem, Moed, les fêtes, c'est en fait des temps de rencontre. Le mot Moed veut dire une rencontre. D'accord ? Quand il y a marqué dans la Torah et les Moadé Hachem, les Moadim, les fêtes, Moed, ça veut dire rencontre. Donc il y a des temps de rencontre, Shabbat, les fêtes. Et il y a un endroit de la rencontre. Et cet endroit de la rencontre, ça commence à Hebron et ça continue à Jérusalem. Mais en Eretz Israël, c'est l'endroit de la rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que quand on est à Paris, il manque un élément pour la rencontre. C'est une réalité. Alors ça ne veut pas dire que Ed Malasot, on ne va pas s'arrêter de faire les mitzvot à Paris. On va continuer à les faire, bien évidemment.
Parce que moi, quand j'ai dit ça à quelqu'un à Paris, quand je suis rentré, je sais pas, il faut venir en Israël parce que quand on est à Paris, il n'y a pas de débat. Alors dans ce cas-là, j'arrête tout ça.
La vérité, c'est que, a priori, d'après la Torah, il n'y a pas de mitzvot en Chutz La'aretz. C'est les Chachamim qui nous ont imposé de faire les mitzvot en Chutz La'aretz.
Pour se souvenir.
Hein?
Ah, mais si les
parents. Nous.
Si les parents sont à l'extérieur de.
Eh ben quoi?
On fait quand même la mitzvah des parents.
Si les parents ils sont en dehors d'Israël.
Si les parents sont en France, ce qui est le cas.
Et
je peux faire la mitzvah
Oui. Pourquoi? D'abord, tu peux très bien faire kibbutz avahem aussi en leur en étant ici, en leur appelant tous les jours, machin. Non, ça ne veut pas dire que tu vas pas aller les voir de temps en temps. Ça a l'air, mais c'est pas la question. Le fait est que, d'une manière idéale, le lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas moi qui ai écrit la Torah, hein, c'est lui. Le lien avec Akadosh Baruch Hu, ça se passe à un endroit précis. Et cet endroit, c'est Eretz Israël. Hevron, Yerushalayim. Oui. Quoi, on va censurer la Torah?
Ouais.
D'abord, faut que tu saches que c'est marqué dans le Sifri, c'est marqué depuis 2000 ans déjà.
Oui, mais non, mais c'est oui, on l'a jamais
sur. Ça, parce que tu as raison que peut-être qu'au niveau au niveau de l'éducation, peut-être qu'il vaut mieux pas le dire à n'importe qui.
Ça, c'est que si la personne elle arrête là maintenant, c'est compliqué.
Nahon, c'est pour ça qu'il faut réfléchir comment on dit les choses. Mais toi, tu peux connaître la vérité.
Ouais.
Ça. En malasot. C'est-à-dire l'attachement à la terre d'Israël, Hevron, Yerushalayim. Eh bien, c'est le point de départ de ma rencontre avec Akadosh Baruch
Hu. C'est-à-dire qu'elle a zéro importance à avoir la Torah qu'on fait comme appareil.
Non, pourquoi? Toutes les mitzvot. Tu sais combien c'est important de se souvenir pour ne pas, parce que la Torah, elle pense que tu vas revenir en Israël. La galoute, elle va se terminer. Elle s'est déjà terminée. Donc tout le monde va revenir. Donc il faut bien que les gens ils se rappellent comment être à la maison. Donc pendant 2000 ans, on a continué à faire. C'est ça? Ça va là? Top? Ben, Chazak ou Baruch? Ha